rencontre avec nos évêques.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue. Thibaud Dautuy, le micro de Radio Présence pour votre émission hebdomadaire de rencontre avec l'un des évêques de notre région. Et pendant ce mois de février, nous sommes accompagnés de Mgr Camiade. Bonjour Mgr.
Bonjour Thibaud, bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes là parce que vous êtes évêque de Cahors, toujours bien entendu, mais aussi parce que vous êtes l'évêque accompagnateur de l'Observatoire des Nouvelles Croyances. Et donc avec vous, pendant ces deux premières semaines en février, nous avons parcouru le rôle, les missions de cet observatoire, qui sont connectés en fait à la recherche de la figure de la personne du Christ. Et justement, on est un peu là cette fois-ci dans l'actualité et on prend un petit peu de hauteur. En février 2018, il y a un an, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a publié un texte qui s'appelle « Placuit Deo ». C'est toujours les mots en latin qui définissent un texte.
Il a plu à Dieu.
Il a plu à Dieu, voilà, merci beaucoup.
Dans sa bonté et sa sagesse.
Et les auteurs de ce texte nous rappellent justement l'importance d'incarner le salut et d'accueillir le Christ de façon concrète et ecclésiale. Donc on va rentrer un petit peu dans ce texte, mais est-ce que vous pouvez déjà, Mgr, nous rappeler le rôle de cette congrégation pour la doctrine de la foi ?
Peut-être tout simplement, c'est un des organismes du Saint-Siège, donc en fait c'est un des, des outils que le Saint-Père a à sa disposition et qui est particulièrement chargé de la foi, la doctrine de la foi comme son nom l'indique, de veiller à la vérité de la foi et donc souvent aussi d'expliciter, de clarifier les enseignements du magistère du pape. La congrégation, autant que je sache, relie en principe tous les documents officiels avant qu'il soit publié, pour faire éventuellement des remarques, c'est pour aider le magistère ordinaire et universel de l'Église, l'aider à éviter les imprécisions, les ambiguïtés, etc. Et puis, on a parfois aussi accentué ça, mais ça paraît moins nettement ces dernières années, mais c'est vrai que ça peut arriver aussi que la Congrégation de la Doctrine de la Foi puisse alerter tel ou tel auteur catholique, en lui disant ce que vous avez écrit là, ça pose un problème par rapport à la doctrine.
Ça se vit. Ça se faisait pas mal l'autrefois,
oui.
Ça se fait beaucoup moins aujourd'hui.
Voilà. On évite la chasse aux sorcières,
oui, c'est ça.
Mais
oui.
S'il y a des points effectivement graves, c'est important d'aider le prêtre à se situer, ou l'auteur, enfin je veux dire le théologien, à se situer, est-ce qu'il a voulu vraiment dire ce qu'il a dit, à ce moment-là il peut ne plus être catholique, mais enfin voilà, c'est quand même des cas très graves et très, très limites.
Mais
voilà.
quelle valeur ont leurs textes?
Comme celui-ci, le Placuit Deo.
Par exemple.
Mais c'est quand même l'enseignement ordinaire de l'Église, donc il a pas la même autorité qu'un texte signé directement par le pape, mais il participe de l'autorité du Saint-Siège, et en tout cas sur le plan de la doctrine, en général, ce sont des textes sûrs, des repères,
qui
nous sont donnés. Quoi,
d'accord.
Vraiment,
oui. Alors donc, pourquoi Placuit Deo, c'était donc il y a un an, pourquoi est-ce que la congrégation a eu le besoin d'éditer ce texte?
Alors ils disent un petit peu dans le texte que le Saint-Père, le pape François, emploie certaines expressions assez régulièrement, et on trouve notamment dans annoncer l'évangile, Evangelii Gaudium, sur la nouvelle évangélisation, mais dans d'autres textes, sur des déviances, qui emploient un vocabulaire ancien correspondant à des déviances dans l'histoire de l'Église, dans les premiers siècles, le gnosticisme ou le pélagianisme.
Alors,
on va peut-être
revenir
dessus, néo-gnosticisme et de néo-pélagianisme. Mais dans les deux cas, ça correspond aujourd'hui à des manières de se référer finalement à la foi, même à la foi chrétienne, mais d'une manière tronquée et souvent marquée par en fait aujourd'hui l'individualisme et une façon de vivre sa foi à sa mesure, enfermée en soi-même et pas suffisamment ouvert à la plénitude du mystère du Christ qui nous sauve et qui est à la fois vrai Dieu et vrai homme, qui est le sans qui nous ne pouvons pas parvenir au salut.
D'accord, donc effectivement ce texte a, on va dire, un objectif d'éclaircissement, de commentaire un peu c'est ce qu'on peut dire ça.
Absolument.
De la pensée du pape. Alors donc, vous avez cité deux mots qui sont des mots épouvantablement barbares pour nos auditeurs.
Peut-être... Oui, je les comprends. Je les emploie pas tous les jours.
Oui, et puis alors j'ai dû me pencher un petit peu dessus pour préparer cette émission et c'est vrai que ça m'a fait peur. On peut, alors, un petit grand retour en histoire, les premiers temps de l'Église, pour maintenir une sorte de ligne droite de la doctrine, l'Église, dans les premiers temps de la chrétienté, a eu à faire face à beaucoup de déviances, qui portent toutes des noms en général de leurs auteurs, dont certains, donc deux sont cités dans le texte, le pélagianisme et le gnosticisme. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être quelques mots
sur, très rapidement,
oui, sur le pélagianisme, par exemple?
Alors, en fait, si on veut prendre de manière chronologique, il faut parler d'abord du gnosticisme, puisque c'est arrivé assez vite, après, à la fin du 1er siècle, au début du 2e, où Saint-Irénée de Lyon a fait tout un traité contre la fausse gnose, fausse connaissance, c'est-à-dire c'est un peu l'illusion que on peut, en fait, qu'on n'est pas, on est sauvé par ce que l'on connaît, ce que l'on maîtrise. Voilà, on se croit sauvé parce qu'on en sait plus que les autres.
D'accord.
Voilà, et c'est du coup il y a une sorte d'élitisme et puis les gnostiques avaient souvent des pratiques un petit peu ésotériques, c'est-à-dire que il fallait être initié pour pouvoir entrer dans le mystère du salut.
Alors, il y a une forme d'initiation aussi dans la religion chrétienne.
Absolument, mais qui n'est pas réservé à quelques-uns. Qui D'accord. est ouverte à tous, et même si on n'a pas tout compris, même si on connaît pas tout, on peut être plus saint qu'un grand théologien qui a tout étudié, et si tant est que ce soit possible, mais qui a beaucoup étudié en tout cas, et qui croit en savoir plus que les autres. Voilà, le mystère du salut ne dépend pas de nos capacités de connaître, et voilà, même ça veut pas dire qu'il faut tomber dans la foi du charbonnier paresseuse, parce qu'il y a le charbonnier pas paresseux qui croit vraiment, qui a mis toute son intelligence au service de sa foi. Et puis il y a le charbonnier paresseux qui dit qui j'ai la foi du charbonnier, donc j'ai pas besoin de réfléchir. Il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Il peut y avoir cette tendance, un peu cette espèce de snobisme de la foi, si vous voulez.
D'accord. Donc, et alors, justement, ce que le pape François appelle dans ce cas-là un néognosticisme, donc cette réactualisation de cette soif de connaissance à tout prix, quelle forme est-ce que ça prend aujourd'hui?
Ah bien, ça peut prendre diverses formes, mais bon, le Saint-Père le dit bien, hein, c'est quand on se si on est convaincu que finalement on est un petit peu au-dessus du lot, qu'on a découvert des choses que les autres ne savent pas, et que finalement c'est dans cette quête là trop intellectuelle, trop cérébrale, que l'on va trouver finalement un véritable salut auquel d'autres n'ont pas encore pu avoir accès.
D'accord, voilà. Non. En fait, ce n'est pas une réactualisation d'une déviance du 1er siècle, c'est juste un travers de l'homme qui ne sait jamais véritablement...
En fait, voilà, c'est ce que clarifie aussi le texte, c'est de dire que ce sont des attitudes humaines qui sont récurrentes et qu'on retrouve tout au long des âges sous différentes formes. Oui. Et donc, le préfixe néo dit bien cela. Quoi. Voilà, alors, il y a des expressions plus précises, hein, où le pape le dit, le texte aussi nous le dit. Et alors, on en trouve notamment une explication, je crois, assez développée dans Gaudete et Exultate du pape François, donc sur l'appel à la sainteté. Et donc, il y a un des premiers chapitres qui développe justement cette tentation. Alors là, parce qu'il y a le néo-gnosticisme, j'allais dire, hors Église, c'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin qui pense ne même pas avoir besoin d'appartenir à l'Église, ni des sacrements, ni du baptême. Et c'est plus là-dessus que parle le texte Placuit Deo. Alors que dans l'appel à la sainteté, Gaudete et Exultate, le pape François dit, mais même dans l'Église, nous pouvons avoir cette tentation, même entre chrétiens, de nous faire un peu, nous complaire dans des groupes un peu élitistes, qui croient en savoir plus que les autres. Voilà. Et au lieu de travailler à incarner la foi, parce qu'en fait, finalement, dans le néognosticisme, il y a une sorte de désincarnation de la foi, on cérébralise tout, et alors que ça se joue dans les relations simples, oui. Et la sainteté dans la vie quotidienne, la sainteté de la porte d'à côté, comme dit le pape François. Et bien sûr, il y a à réfléchir sur sa foi, mais c'est pas forcément là qu'on trouve le salut. C'est davantage dans le concret de notre
dans la
vie
rencontre,
chrétienne
et dans la dialogue, rencontre,
et absolument.
L'autre déviance qui est citée, c'est le pélagianisme. Alors, le pélagianisme, donc, c'est une doctrine plutôt du 4e siècle, hein, avec à partir de l'ascète breton Pélage. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en deux mots pour déflorer ce sujet?
Alors Pélage, j'ai dit que c'était saint Irénée qui avait beaucoup dénoncé le gnosticisme, on peut dire que c'est saint Augustin qui a combattu le plus Pélage, notamment en défendant ce qui est devenu un dogme, le dogme du péché originel, hein, disant finalement, Pélage pense qu'on peut se sauver par nos propres forces, que l'homme en lui-même a la capacité d'aimer Dieu il a été créé pour cela, donc il en a toute la capacité et il n'a pas besoin nécessairement d'une grâce. Bon, s'il a péché, il a besoin de la grâce, mais l'homme qui est un bon croyant, qui a une vie droite, n'a pas besoin de la grâce. C'est ce que pense le moine Pélage. Et donc saint Augustin dit notre nature est entachée par le péché. Ouais. Effectivement, l'Écriture, saint Paul le dit déjà. Enfin, il s'appuie bien sûr sur les Écritures, et nous avons tous besoin de la grâce pour pouvoir être sauvés. Nous ne pouvons pas notamment aussi Gaudete et Exultate, le pape François insiste vraiment beaucoup là-dessus en disant c'est une vérité de foi qui est défendue depuis toujours, que la grâce précède tout en nous. Nous ne pouvons pas nous mettre en route, même notre recherche spirituelle, même ceux qui sont en quête de Dieu, quel qu'en soit le commencement ou l'évolution, au fond c'est parce qu'ils sont habités par la grâce de Dieu. On ne peut pas, elle nous précède toujours, voilà. Et c'est une grande erreur de penser que non.
Très bien, merci beaucoup Monseigneur pour cette explication qui m'a semblé moi très claire. J'espère que, chers auditeurs, vous y retrouvez aussi, sinon n'hésitez pas à aller faire un tutour sur Wikipédia ou lire bien entendu Placuit Deo. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, merci Monseigneur.
Merci.
Rencontre avec nos évêques,